Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Salvé, Eric Figuère et Ricardo Baroni. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec le dernier test match de l'équipe de France pour la tournée d'été, du golf avec le British Open et du cyclisme avec la suite du Tour de France. Après une page de pub, nous commenterons les résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Bruno Salvé, on va commencer par le rugby et avec vous. Donc troisième test, troisième défaite, 29-19 cette fois-ci. Les Blacks ont remis les pendules à l'heure un petit peu depuis les trois défaites qu'on leur avait infligées ou on va considérer que c'était l'équipe de France bis?
On va considérer que c'est une équipe de France expérimentale puisque Fabien Galthié et son staff a profité de cette tournée pour intégrer bon nombre de nouveaux joueurs que le grand public ne connaissait pas. Et donc laisser un peu la place aux jeunes et surtout laisser les cadres de l'équipe de France au repos. Quand on se rend compte que un joueur international français, c'est plus de 40 matchs par saison. Je ne sais pas si vous imaginez, donc un match toutes les semaines, que ça représente au niveau de l'intensité des chocs, même si ce sont des joueurs qui sont physiquement préparés. Entre le top 14, la Coupe d'Europe et les plages internationales, ça fait vraiment beaucoup de matchs. Et donc le choix a été fait dès le départ de laisser tous les cadres au repos, et c'est une bonne chose. Bien sûr, le bilan il est négatif puisqu'il y a trois matchs, trois défaites, mais il y a deux défaites encourageantes. La première, et puis sur ce dernier match où on a vu quand même un match de très haut niveau avec des Blacks revanchards et une équipe par contre néo-zélandaise qui est en pleine préparation du rugby championship, donc qui est en début de saison et qui est en pleine forme.
Qui démarrera au mois d'août. Ouais. Si on s'arrête un petit peu sur quelques individualités, on a Guillard qui a encore été très présent sur ce troisième test.
Oui, Guillard qui avait été déjà très bon sur le premier test.
Alors, exactement.
Ce qui est paradoxal, c'est que c'était un joueur qui joue deuxième ligne, donc qui est enfermé dans la cage normalement, qui est un joueur qui est là. Galthié l'a testé sur deux tests en troisième ligne centre, donc c'est un poste où il court beaucoup plus. Et il a répondu présent sur ces matchs-là, avec encore 100% de plaquage, donc 24 plaquages. Il y a une statistique, alors comme moi j'ai eu la chance d'être sur le terrain d'Hamilton, puisque comme bon nombre de Calédoniens, puisque quand on est parti, l'avion était plein de supporters et au retour aussi. Donc, bon nombre de Calédoniens ont fait le déplacement pour aller voir ce dernier test. Et c'est vrai que quand on est au bord du terrain et qu'on voit l'intensité du match et l'intensité des plaquages, où on entend même les chocs, ça fait mal. On se rend compte quand même que l'équipe de France a été privée notamment de balles en deuxième mi-temps, puisque les phases de conquête, que ce soit la touche et la mêlée, ont été dominées par les Néo-Zélandais. Mais bon, l'équipe de France termine avec 275 plaquages réussis sur 297, donc ce qui fait qu'un taux de 93%, ce qui est énorme à ce niveau-là, et a été très peu pénalisé. Donc c'est aussi ce qui limite le score, parce que quand on voit la deuxième mi-temps, les Blacks ont tout le temps eu le ballon, ont eu la possession, ont eu la domination, et on a eu des Français très vaillants qui se sont vraiment donnés à fond en défense. Et bon, on le voit pas trop à la télé, mais nous on le voyait sur le bord du terrain, sur certaines phases de jeu, on voyait qu'il y avait par moments 3-4 joueurs français qui étaient au sol, qui avaient vraiment du mal à se relever, à récupérer, mais bon, ils sont une abnégation hors du commun. D'ailleurs, salué à la fin, puisque j'ai suivi l'interview de Scott Robertson, le coach des Blacks, qui félicitait vraiment ces jeunes joueurs français pour leurs prestations.
On a Astoy et Le Garec qui ont aussi fait un plutôt bon match sur ce troisième test, là, une bonne charnière.
Oui, Le Garec, c'est pas étonnant puisque c'est un joueur qui est, bon, malheureusement, comme certains joueurs de talent, et qui est barré en équipe de France par Antoine Dupont et Maxime Lucu, donc c'est le troisième de la liste. Mais c'est un joueur en devenir et qui a vraiment assumé et assuré lors de cette tournée, qui confirme vraiment son potentiel de très très grand joueur. Oui.
Et Astoy qui a aussi je trouve tenter des drops qu'on ne voyait plus depuis un petit moment en équipe de France. Ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus des drops et il est là et il ose.
Et le public néo-zélandais était complètement surpris parce que c'est vrai qu'à à ce niveau-là, on en voit très peu de drops, surtout à la période où il a tenté et réussi en première mi-temps, et la deuxième, donc elle est passée légèrement à côté. Mais c'est vrai que, oui, à Stoy, mais il y a aussi Joris Segond qui a fait des très bons matchs, mais qui était blessé pour le troisième test. Joris Segond aussi à l'ouverture, qui peut s'imposer comme un très bon joueur, avec un jeu au pied de très précis et d'une longueur assez impressionnante. Oui, donc on a du potentiel aussi sur ces postes-là.
Alors, sans le stigmatiser, on a aussi un joueur qui a un peu sombré, c'est Léo Barré, là, sur ce troisième test, encore un peu plus que sur les tests d'avant, j'ai envie de dire.
Oui, après, Léo Barré...
On l'a senti vraiment en dedans. Hein.
En difficulté, oui. Il est, sur le premier essai, il a une faute de placement, et puis après, sur le deuxième, où il doit taper ou se coucher sur le ballon et ça arrive, hein, ça arrive malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est pas très régulier, même en club, hein, il fait de très bons matchs avec le Stade Français, puis d'autres moins bons. Donc il faut qu'il arrive parce que c'est un joueur qui a un gros potentiel. Il a fait une belle entame de match, il a un gabarit quand même assez imposant pour un joueur qui joue à ce poste-là. Et donc voilà, il faut qu'il gagne en régularité, mais c'est malheureusement là il s'est loupé sur ce match-là. Mais ça arrive.
Oui, oui. Alors après, on a aussi Atis Ogbe qui a plutôt fait une bonne tournée lui aussi, et qui s'est montré au poste d'arrière sur le premier test notamment.
Oui, qui s'est montré sur le poste d'arrière, qui s'est montré à l'aile aussi sur les deux autres tests. Donc oui, c'est pratiquement pas une surprise parce qu'il avait il avait évolué aussi lors du tournoi destination. Mais on a aussi, on peut noter le retour de Gabin Villière qui revient très très fort aussi pour gagner sa place dans le groupe. Et puis on a des joueurs comme Fischer qu'on connaissait pas non plus, le jeune Brennan qui est quand même reste le meilleur plaqueur de ce tournoi avec 26 plaquages. Donc pareil, Brennan qui évolue au niveau du Stade Toulousain en poste de deuxième ligne et qui a évolué en troisième ligne. Donc c'est un quoi, on les a vus de près, c'est un grand gabarit, très mobile. Donc c'est un joueur d'avenir qui pourra faire les beaux jours, je pense, de l'équipe de France dans quelques années.
Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de cette tournée? Quels sont les points positifs?
Ben les joueurs dont on a parlé, dont on a cité, je pense aussi à Bourgarit en talonneur, qui est pareil, barré par à la fois Peato Movaca, mais aussi son nom m'échappe, le titulaire du Stade Toulousain. Donc ce sont des joueurs qui sont dans les 2-3 meilleurs joueurs français, et donc qui ont eu l'occasion et l'opportunité, grâce à ce choix hein, du staff, d'avoir du temps de jeu et de se montrer. Donc c'est aussi une très bonne chose pour ces joueurs. Je pense que même si la critique tombe sur le staff de Fabien Galthié en disant on revient Fanny avec trois défaites, l'objectif n'était pas de s'imposer chez les Blacks, c'est toujours très très compliqué, mais là je pense que c'était surtout une tournée
revue d'effectifs.
Voilà, complètement une revue d'effectifs, et je pense que la revue d'effectifs elle a été intéressante puisque certains ont gagné des points et d'autres malheureusement en ont perdu aussi.
Prochaine tournée au mois de, enfin il y aura le tournoi entre temps, mais prochaine tournée en automne.
Ouais, avec la venue des champions du monde sud-africain. Donc ça va être un gros test, mais je pense que sur cet accueil-là en automne, tous les internationaux, les joueurs
être premiers, sur le
comme ils sont nommés, seront de retour après la pause et puis le début du top 14. Donc ce sera autre chose, ce sera une autre équipe de France.
On suit un petit peu aussi les autres nations. L'Afrique du Sud a battu la Géorgie 55-10, sans surprise.
Oui.
L'Argentine a battu l'Uruguay 52-17, l'Angleterre a battu les États-Unis 40-5 et les Lions britanniques ont battu l'Australie 27-19.
Oui, c'est un match intéressant parce que les Lions sont temps où ils ont dominé en première mi-temps, puisqu'ils ont mis 24 points en première mi-temps, et bien ils ont eu énormément de mal face à cette jeune équipe australienne aussi, donc les Australiens qui préparent la Coupe du Monde qu'ils accueilleront chez eux en 2027.
C'est demain.
Qui sont en pleine préparation, et donc avec énormément de jeunes joueurs, un peu comme les Français. Et il nous tarde de regarder, il y a encore deux tests, hein, puisque la série se joue en trois tests, et puis on espère que les Australiens remporteront peut-être le deuxième pour pouvoir avoir une belle
sur le dernier.
Dans deux semaines, voilà. Et puis en aparté, j'ai quand même eu l'occasion d'aller voir l'Écosse contre les Samoa aussi à Auckland, puisque ça se joue à Auckland, où on a vu une équipe d'Écosse très enjouée, avec énormément de mouvements, tel qu'on l'a vu jouer pendant le tournoi destination, d'un match très très agréable, et puis une victoire assez facile contre les Samoa, 41-12.
Ok, et bien voilà pour cette page rugby de ce week-end. On va passer au cyclisme avec vous, Ricardo Baroni. Alors, il reste une semaine de course avec notamment les Alpes et puis le Ventoux. Mais on a comme le sentiment que Pogacar a un peu tué le suspense déjà, non ?
Non, je pense pas du tout que le suspense a été déjà tué, puisqu'il a 4 minutes d'avance au classement général. On sait qu'en 2022 et 2023, il a perdu énormément de temps sur une étape. Il a même perdu environ 6 minutes, donc je pense que rien n'est joué. Surtout qu'il reste de grosses, grosses étapes, hein, puisque là, on a l'étape de repos, mais après, il va y avoir le Mont Ventoux, et il y a encore d'autres étapes très difficiles, par exemple, arriver à la Lauze. Donc je pense que rien n'est joué encore. C'est pas pour dire simplement qu'il faut continuer à regarder le Tour de France et qu'il y a encore du suspense, mais je pense qu'il y a encore possibilité de renverser la situation, puisqu'on sait jamais ce qui peut se passer dans les prochaines étapes.
Bon, on a quand même on a le sentiment que Vingegaard a un peu de mal à suivre, je sais pas comment on doit le dire, mais on sent que Pogacar il l'a à sa main quand même.
Oui, c'est vrai, mais on a regardé par exemple les performances de Jonas Vingegaard dans la montée d'Otakam, elles sont inférieures à l'année où il a gagné à Otakam, donc je pense qu'il n'a pas encore la condition à 100%, ou il est moins fort que les précédentes années, mais il peut avoir, retourné la situation dans une grande étape de montagne comme le Mont Ventoux, puisque durant un Tour de France, vers le sommet du Mont Ventoux, Jonas Vingegaard avait lâché Pogacar. Donc la chose est encore réalisable.
Bon, on va suivre cette étape du Mont Ventoux avec beaucoup d'intérêt. Du coup, on va s'intéresser un peu aux coureurs français. On en a un qui nous surprend un petit peu. En tout cas, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. C'est Kevin Vauclin.
Oui,
c'est un superbe tour.
Tout à fait. Il est cinquième au classement général. Il a que 24 ans et il se bat tous les jours. Moi, ce qui me surprend sur ce coureur, c'est que l'équipe dont il fait partie, Arkea BNB, c'est une équipe qu'on ne sait pas si elle va continuer pour l'année prochaine. Donc, il arrive à mobiliser tous ses équipiers, puisque lors d'une interview, il a aimé à dire qu'une étape de montagne, ils ont gagné le classement de l'étape par équipe. Donc ça fait plaisir de voir qu'il essaie de se battre. Ça va être difficile pour lui de gagner une étape puisqu'il est classé au général cinquième, mais il se bat et pourquoi pas le voir peut-être pas le podium, mais s'il reste dans les cinq premiers d'ici Paris, ça peut être très intéressant pour le futur.
En tout cas, ça peut lui assurer de trouver une équipe la saison prochaine si la sienne n'est pas apte à continuer.
Oui, c'est vrai, mais il a des équipiers qu'il aime bien remercier à l'arrivée et je pense qu'il pense aussi à toutes les personnes qui travaillent dans cette équipe et qui souhaitent que l'équipe continue, même si c'est avec ou sans lui. Mais a priori, ça serait sans lui.
On a un Français qui porte le maillot à poids aussi, Lenny Martinez.
Tout à fait, hein, 22 ans, très jeune. Je pense que c'est l'unique Français qui peut gagner à la pédale une étape contre tous les autres, puisque l'arrivée au sommet du Mont Ventoux, il l'a déjà gagné dans une autre compétition qui était un challenge du Mont Ventoux. Il est arrivé avec un petit groupe au sprint et il a gagné au sommet du Mont Ventoux. Donc, chose qu'il peut réaliser encore cette année. Et c'est un bon grimpeur et ça ferait vraiment plaisir qu'il y ait un Français qui gagne une étape, puisqu'on en parle, on va dire, pas sans arrêt, mais on en parle énormément, qu'on attend la première victoire française sur ce tour.
Bon, on a cru, enfin, Julien Alaphilippe a cru avoir gagné, mais il n'avait pas gagné.
Oui, ça m'a fait de la peine, surtout ceux qui se sont moqués un peu de lui parce qu'il a levé les bras en pensant d'avoir gagné. Mais il faut pas oublier qu'au début de cette étape, il y a eu une grosse chute. Il s'est remis en place tout seul la clavicule. Il s'est retrouvé un peu perdu dans le peloton. Il avait sa radio de communication qui était en panne. Donc moi, sincèrement, j'ai regretté. Maintenant, il avait un coureur qui était pas loin devant lui à l'arrivée au sprint, mais il est rentré quand même dans le peloton qui jouait la troisième place à 800 mètres de l'arrivée. Donc, je pense qu'il a pas eu le temps de regarder qui y avait devant ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage, mais bon, ça peut lui donner le moral pour la suite du tour, puisqu'on voit qu'au niveau conditions physiques, avec tout ce qui lui est arrivé en début d'étape, il est toujours là, il est toujours présent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça ferait plaisir qu'il gagne une étape.
Alors, on va aussi parler du meilleur jeune, du maillot blanc, Lipovic. Troisième au général.
C'est ça, troisième, une révélation après, on va dire, l'abandon de Remco Evenepoel. Bon, il n'était pas loin derrière lui à quelques secondes de Remco Evenepoel, donc je pense qu'il lui aurait pris le maillot de meilleur jeune dans la suite du Tour de France. C'est une sacrée révélation. Il se bat, c'est un coureur qui se bat, il n'est pas si vieux que ça, il n'a que 24 ans, donc lui aussi, on peut le voir réaliser des performances. Maintenant, il est nettement en dessous d'un coureur comme Pogacar ou Vingegaard.
Alors, vous avez parlé de l'abandon de Remco Evenepoel. Est-ce qu'on peut, on peut dire deux mots sur cet abandon un peu surprenant, puisqu'on sait que les coureurs et Remco s'étaient préparés pour ce Tour de France, et il le dit lui-même, trois étapes consécutives où il se sent pas du tout bien sur le vélo et où finalement il décide d'arrêter.
Oui, donc moi j'ai contacté son directeur sportif que je connais, Davide Bramati. Je lui ai posé les questions de savoir ce qui s'était passé, pour quelles raisons il avait abandonné. Ils ne le savent pas dans l'équipe. Maintenant que Remco se fasse rattraper dans un contre-la-montre, je pense que ça lui est jamais arrivé. Il ne faut pas oublier qu'il est champion du monde et champion olympique du contre-la-montre. Donc ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Il prévoit une semaine de repos et après de préparer les championnats d'Europe. Chose que je regrette, son abandon, puisqu'il avait déjà eu un coup de barre un peu de ce genre-là au Tour d'Espagne il y a quelques années. Et après, il nous avait fait des superbes étapes et j'aurais souhaité qu'il montre le champion qu'il est de continuer le Tour. Mais s'il a décidé d'abandonner, il doit probablement avoir ses raisons. Nous, devant la télé, devant notre fauteuil, c'est facile à dire ce qu'on souhaite. Maintenant, Remco, ça reste un champion. Moi, je pense qu'il va revenir encore plus fort. Il ne faut pas oublier qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé. Il a eu deux grosses chutes. En début d'année, il a eu un problème avec un véhicule qui a ouvert une portière devant lui. Et donc, il est retombé encore. Donc, la préparation, elle a été chamboulée pour arriver en pleine forme à ce Tour de France. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a quand même gagné le contre-la-montre de Caen avec 16 secondes sur Pogacar. Donc, je pense que son Tour, on ne l'oubliera pas.
Bon, en tout cas, lui aura peut-être envie de l'oublier pour revenir plus fort l'année prochaine. La suite du Tour, on en a parlé, le Ventoux, c'est mercredi.
Voilà, là, il y a une étape de repos. Le week-end d'après, c'est le Mont Ventoux. Pas le week-end, le jour d'après.
Le jour d'après.
Voilà, le jour d'après. C'est donc, le 22 juillet, donc c'est le Mont
Ventoux.
Mardi
à mercredi pour nous.
Voilà, c'est une étape assez particulière pour la simple raison que tout le début, c'est vallonné, sans grosses difficultés. Et il y a la montée du Mont Ventoux dans le final. C'est une étape de 165 km. C'est une montée sèche. Donc, est-ce qu'il va y avoir des échappées précédentes et qui vont prendre beaucoup de temps et qu'on ne va pas les rattraper? Mais Pogacar a dit qu'il souhaiterait gagner cette étape, puisque c'est une étape mythique. Et Pogacar, habituellement, quand il se fixe des rendez-vous, s'il ne gagne pas, il fait deuxième. Donc, moi, j'espère sincèrement qu'il y ait une belle échappée précédente qui oblige les coureurs qui veulent gagner cette étape à se découvrir dès le début de la montée et à être obligés d'attaquer, de se défoncer, on va dire, pour gagner cette étape mythique du Tour de France.
Bon, eh bien, on va rentrer dans la dernière semaine du Tour. Donc, on refera le point lundi prochain et on verra si Pogacar est allé au bout ou si Vingegaard a redressé la barre.
Moi, je pense que surtout, la prochaine fois, on aura à parler de cette étape mythique qui va être à Paris sur le parcours des Jeux Olympiques. Remco n'est pas là. Je rappelle que le deuxième, c'est David Madouas, qui est déjà venu en Nouvelle-Calédonie. Et ça me ferait plaisir que les Français qui réclament une victoire, ce soit lui qui gagne la première étape française sur les Champs-Élysées.
Bon, eh bien, aussi que ça ait beaucoup, beaucoup d'intérêt. On va passer au golf maintenant avec vous, Eric Figuère. C'était la dernière levée du Grand Chelem de cette saison, le quatrième majeur. Et Scottie Scheffler, un peu à l'image de Pogacar, il a un peu laissé que des miettes quand même cette année à ses adversaires.
Effectivement, on peut le dire. La saison se termine pour ce qui concerne les tournois majeurs. Quand on parle du vainqueur de ce week-end, Scottie Scheffler, il est numéro un mondial. Il gagne son quatrième tournoi majeur, son deuxième de la saison. On pourrait se dire que tout est normal, a priori. Sauf qu'en golf, on oublie et on ne le sait pas assez. C'est que le numéro un mondial, aussi fort soit-il, et c'est le cas pour ce joueur-là, a plus de chances de perdre le tournoi que de le gagner, puisque sur à peu près les 150 joueurs qui s'alignent au départ, ils sont à peu près, alors c'est toujours difficile à dire, mais on peut imaginer qu'une grosse centaine de joueurs sont en capacité de gagner ce tournoi. Donc c'est assez phénoménal. Et d'ailleurs, ces joueurs-là qui s'alignent, je parle de Scottie Scheffler, comme des joueurs qui sont quasiment aussi forts que lui, s'alignent et le plus souvent ne gagnent pas. Maintenant, c'est Scottie Scheffler. Et donc, il convient quand même d'en parler un peu différemment des autres golfeurs, et pas seulement parce qu'il est numéro un mondial. J'avoue très très honnêtement que ce n'est pas le joueur que je suis avec le plus de plaisir, tout simplement parce que c'est un joueur qui a une attitude qui dénote un petit peu, peut-être par rapport à d'autres qu'on a envie de suivre, de pousser, de bon voilà,
mais moins charismatique.
Un peu moins charismatique, mais alors après on met le charisme là où on veut. Effectivement, c'est toujours un peu délicat de parler de ça, mais c'est un petit peu vrai. Sauf que c'est juste un type normal. Alors c'est un peu paradoxal de parler, parce qu'on va parler un peu palmarès aussi quand même.
Je connais un paquet de types normaux qui voudraient jouer comme ça,
Ah, on est bien d'accord, moi le premier, enfin toute proportion gardée bien évidemment.
Et avoir son salaire surtout aussi.
Voilà, mais donc il a, alors on va quand même parler de son palmarès, on a dit que c'était son quatrième tournoi majeur, c'est vrai. Mais ce qui est assez incroyable, et on a eu de la chance cette année, puisque Rory McIlroy a écrit... une grande page, une grande ligne en tous les cas de l'histoire du golf en gagnant le tournoi, le Masters au mois d'avril. Donc il a réalisé son grand chelem personnel.
En carrière,
ce sera, pas sur l'année évidemment, mais en carrière, ce sera sans aucun doute le cas très très bientôt pour Scottie Scheffler, qui en a trois.
Il lui en manque plus qu'un,
à son actif,
il lui manque plus que l'US Open.
Il gagnera très rapidement, j'en suis convaincu, même si là encore une fois en golf, rien n'est jamais écrit d'avance. Mais il est seulement le quatrième joueur à gagner les trois tournois que sont le Masters, qu'il a gagné deux fois, l'USPGA et aujourd'hui le British Open, avant ses 30 ans. Et il rejoint une liste donc très courte des plus grands joueurs de l'histoire que sont Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods. Donc c'est pas juste... il se trouve que... Non, ce qu'il vient de réussir et ce qu'il réussit depuis 3 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peine 3 ans, il n'avait quasiment jamais rien gagné. Et puis il y a eu un déclic. Alors on savait que c'était un top
bon
player,
hein,
il n'y avait pas de souci, mais il n'avait jamais rien gagné. Et puis il a mis un petit peu plus de temps que les autres à se construire. Hein, il lui a fallu un petit peu plus de temps pour arriver à maturité, avec un swing assez particulier, ce qui aussi rajoute un petit peu des fois à la... Ah, pas la gêne, c'est pas le cas, mais quand on le regarde, à chaque fois on a l'impression qu'il va rater son coup, puisqu'il perd un peu l'équilibre, c'est toujours un peu spécial à regarder. Bon, il le fait pour tous les coups, donc on est habitué maintenant. Malgré tout, ça fait toujours quelque chose, et puis ben, en fait, il est toujours pleine piste, comme on dit chez nous. La balle au milieu du fairway, et puis derrière, ben, il a le meilleur jeu de fer du monde. Alors il a le meilleur taux de réussite au driving, donc le départ du trou. La balle sur le fairway, il a le meilleur jeu de fer, ça c'est indiscutable, du plateau. Et puis les rares fois où il fait une erreur, parce que ça arrive une fois de temps en temps, mais tellement peu souvent par rapport à ses adversaires, que ben voilà, il sort quelque chose qui n'est pas très spectaculaire, qui est jamais, rarement spectaculaire d'ailleurs. Mais en tous les cas, il fait très peu d'erreurs. Alors il en fait un peu, mais c'est tellement anecdotique que voilà, il domine, il est vraiment dominateur comme l'été. Alors d'une autre manière, mais comme l'était le dernier en date, qui était Tiger Woods. Donc on ne sait pas évidemment ce qui va se passer à l'avenir, mais là, ce n'est pas seulement un joueur qui est dans une forme exceptionnelle. Ce n'est pas ça. Voilà, parce qu'on a, dans toutes les disciplines, et dans celle-là aussi, des joueurs qui sont, et ceux qui sont derrière lui, sont dans des périodes fastes. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, il est dominant, c'est le patron. Il est indiscutablement le numéro un mondial et il ne sera pas rejoint avant longtemps. Certes parce qu'il a de l'avance, une avance considérable, mais aussi parce qu'il est véritablement plus fort, et j'encourage tous les amoureux de sport à lire les déclarations de Rory McIlroy, qui est le numéro 2 mondial et un joueur, lui, pour le coup, qui fait lever des foules. Alors là, il était en Irlande chez lui, donc il les a d'autant plus fait lever, mais il les fait lever partout, et même aux États-Unis, et partout où il passe, il est adulé. Et Rory McIlroy a dressé des louanges comme rarement, et j'en ai un petit peu la chair de poule en parlant, sur Scottie Scheffler, en disant que voilà, et quand le numéro 2 mondial qui vient d'écrire l'histoire lui aussi parle comme ça, et d'un adversaire qui lui a volé la vedette, quoi, hein, parce que il était lui aussi dans le coup, Rory McIlroy, on peut
et
en
c'est
parler.
C'est ça, il termine 7e à 7 coups.
Voilà, il était dans le coup, et ça a été, c'était un peu la grande question jusqu'à il y a encore 2 ou 3 semaines, parce qu'il avait du mal à se remettre de son historique grand chelem en carrière. Et alors qu'on pensait que tout serait facile pour lui dorénavant, bah c'est le contraire qui s'est passé. Et voilà. Donc, suite au prochain épisode, alors pour les majeurs, c'est l'année prochaine. On a la Ryder Cup en septembre. Donc là aussi, même ceux qui ne s'intéressent pas au golf, je vous encourage au mois de septembre à regarder cet événement, qui est l'événement planétaire après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football la plus suivie. Hein, on pense souvent que le golf est un sport mineur, mais c'est un sport majeur. Donc là, vraiment, on aura un spectacle aux États-Unis extraordinaire, vraiment extraordinaire. On peut vite fait parler des Français, qui malheureusement, oui. Voilà, je sais que tu allais m'en parler.
Exactement.
Mais je te devance un peu, comme je vois que le temps file. 6 Français au départ, 3 qui ne passent pas le cut, c'est-à-dire qui ne réussissent pas à se qualifier pour les deux tours, les 3e et 4e tours. Et avec une grosse exception, encore une fois, malheureusement, pour Mathieu Pavon, ouais. Qui est le numéro 1 français et qui, après avoir fait une saison exceptionnelle l'année dernière, tant sur le circuit américain que dans les tournois majeurs, a voulu, comme beaucoup, alors ça peut paraître une forme de jugement de ma part, mais c'est un constat. Il a voulu, comme beaucoup avant lui, alors que ça marchait, vouloir aller encore plus haut, ce qui est évidemment tout à fait normal et louable.
C'est l'essence même du sport.
Voilà, sauf que quand on remet tout ça à plat, pour cette discipline-là, le golf, en général, ça ne se passe pas très bien. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Donc il a échoué, il n'a pas passé le cut. 3 Français, Sadier, Rosner et Langasque, qui eux ont passé le cut, mais qui malheureusement finissent au-delà de la 50e place.
C'est ça, 52e pour Sadier, voilà. 59e pour Rosner, 61e pour Langasque.
Voilà, c'est forcément un petit peu décevant, parce que ce sont de très très bons joueurs, ce sont malheureusement des joueurs qui ne participent pas assez au tournoi majeur. Sadier, c'était son premier, après 12 ans de carrière, donc ça montre alors à la fois à quel point c'est difficile de se qualifier pour ces tournois, et puis à quel point il est difficile d'y briller encore plus. Mais c'est quand même un petit peu triste et un petit peu dommage. Alors c'est des joueurs qui s'entraînent dur. Voilà, c'est des joueurs qui ont envie, donc on va pas les critiquer, mais on est forcément un petit peu déçus. Je parle très vite fait de celui dont je parle à chaque fois maintenant. C'est Adam Scott, l'Australien, 97e tournoi majeur. Donc je le répète au cas où on n'aurait pas entendu, 97e tournoi majeur d'affilée. Hein, sur une période de 24 ou 25 ans, à vérifier, mais 97 tournois majeurs d'affilée à compter de 4 par an. À chaque fois, il faut évidemment se qualifier, il faut avoir un rang mondial pour y accéder automatiquement, ou réussir de temps en temps à passer les qualifications. Donc là, c'est juste exceptionnel et on ne parle pas assez de lui. Bon, là, il n'a pas été dans le coup cette semaine, c'est pas grave. Il sera encore là l'année prochaine et c'est en plus un très beau joueur.
Il va bientôt passer ce qu'on appelle le century.
Oui, je m'y prépare parce que j'espère être encore invité de temps en temps l'année prochaine, puisque ce sera pour l'année prochaine et normalement pour l'US Open.
Eh bien, merci pour vos analyses, messieurs, et on se retrouve tout de suite après une page de pub.
RRB, la pub. 14 juillet au 3 août, facilitez-vous le travail du sol. La tarière thermique d'Otan 49 cm3 est à 24 990 francs seulement. Alors n'attendez plus pour en profiter. Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Votre 4x4 demande de l'aventure? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Conné. Visitez notre page Facebook.
Brousse Service Express a le plaisir de vous annoncer qu'à compter du lundi 4 août 2025, la reprise des services de livraison dans le Nord s'effectueront tous les jours du lundi au vendredi. Pour plus de renseignements, un seul numéro, le 24 90 45. Il est 17h33, on retrouve tout de suite Olivier Ledin pour la semaine Sportmidable.
Une semaine Sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Messieurs, on va continuer cette émission avec les brèves de la semaine et du week-end. Et on va commencer par de la MotoGP. Et là aussi, il y a un cannibale qui s'appelle Marc Marquez et qui ne laisse que les miettes aux autres. En l'occurrence, il a gagné la course sprint de samedi et il a gagné le Grand Prix dimanche devant Marco Bezzecchi et Pedro Acosta. Quartararo est 6e, Zarco 13e Et le fait important, c'est que son frère Alex Marquez a abandonné, ce qui fait que Marc Marquez a 120 points d'avance sur son frère Alex au championnat. Eric Figuard, un petit commentaire.
Ah, c'est le cannibale, tu l'as bien nommé, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait, pas seulement parce qu'il gagne tous les Grands Prix quasiment cette année, et notamment toutes les courses sprint, mais aussi parce qu'il a connu lui des moments très difficiles avec de nombreuses chutes et de nombreuses blessures. Un changement de monture, il est passé chez Ducati, et ben voilà, il arrive tranquillement, il a mis un tout petit peu de temps sur une écurie satellite pour se faire la main à la machine, et puis aujourd'hui il est avec une moto d'usine et il domine outrageusement, il est royal, il est souriant, il est heureux et il domine tout le monde, et Pecco Bagnaia qui était, on pouvait le penser après la blessure de Martin, son principal adversaire, ben en fait il est loin quoi.
Il est très loin pour l'instant effectivement. Ricardo Baroni.
Moi, ce qui me surprend dans ce MotoGP, surtout dans le MotoGP Sprint, où les deux pilotes qui sont Marc Marquez et Bagnaia ont été obligés de ralentir pour un problème de pneus et de pression des pneus et de laisser passer les adversaires. Donc c'est assez surprenant de voir une compétition qui est sur la vitesse, de voir ce genre d'action des pilotes. Donc Marc Marquez, lui, il a ralenti, il a laissé remonter la pression de ses pneus et il est reparti pour gagner le motosprint. Bagnaia, lui, ben, sa pression, elle ne remontait pas, donc il a laissé passer toutes les motos et à l'arrivée, ils ont constaté que son compteur qui teste la pression des pneus était défectueux. Donc c'est un peu dommage de voir des pilotes qui sont obligés de ralentir pour laisser passer les adversaires et redonner de la pression à leurs pneus. Et donc je trouve ça un peu dommage, surtout pour une discipline où le plus important, c'est d'aller vite et de gagner.
Voilà, on rappelle juste qu'en termes de réglementation, il n'y a pas le droit de descendre en dessous d'un certain seuil pendant un certain temps dans la course, sinon il y a une pénalité de 7 à 8 secondes qui
varie. C'est surtout pour la sécurité des pneus, et c'est le manufacturier des pneus qui demande à ce que certaines pressions soient respectées pour éviter des accidents graves.
Et Quartararo, espérons que qu'il continue à rouler vite. On sait qu'il roule très vite. Voilà. Hein, il a fait quelques pôles. Malheureusement, en course, on sait que sa machine ne lui permet pas, et notamment avec l'usure des pneus, ne lui permet pas de rivaliser. Donc, est-ce que Yamaha va pouvoir lui proposer une machine plus compétitive? C'est vraiment dommage parce qu'on se rend compte qu'il est toujours aussi rapide.
En tout cas, il est beaucoup mieux sur le début de cette deuxième partie de saison. Ça fait effectivement 3 ou 4 Grands Prix que Quartararo est beaucoup mieux. On va suivre la suite de ce MotoGP dans les Grands Prix qui arrivent. On va parler tennis maintenant, messieurs, et une confirmation qu'on attendait, c'est Loïse Boisson, la demi-finaliste française de Roland-Garros, qui rejouait son premier tournoi sur terre battue après son petit passage éclair à Wimbledon. Et elle s'est imposée sur le WTA 250 de Hambourg en battant Bondard, la tenante du titre, en finale. Donc premier titre en 3 tournois, c'est seulement son 3e tournoi pro.
C'est qu'un 250, c'est sûr, mais il fallait confirmer. Hein, voilà. C'était l'étoile filante de Roland-Garros. On se demandait forcément ce qu'elle allait pouvoir faire derrière. Wimbledon, ça a été un peu compliqué. Et puis là, sur un tournoi comme celui-là, elle arrive à aller au bout. Et ça, c'est très encourageant, même enthousiasmant. Même.
Et elle va gagner 19 places au classement.
44e mondial.
Et donc,
faut pas oublier qu'avant Roland-Garros, elle était 361e ou 364e mondial.
C'est ça.
Elle n'avait jamais fait partie du top 150. Et aujourd'hui, 2 mois après, elle est 44e mondial.
Et ce n'est pas fini. On espère pour elle que la suite de la saison va être du même acabit, puisque... C'est vraiment
on a besoin de joueurs et de joueuses qui nous fassent un peu rêver.
On va continuer à parler sport féminin, mais du football cette fois-ci, messieurs, avec l'Euro féminin de football et la déception pour les Bleus de Laurent Bonadei, qui se sont inclinés hier matin en quart de finale au tir au but contre les Allemandes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé autour de cette table qui m'a envoyé un SMS en me disant tiens, ça me rappelle un proverbe, à la fin ce sont toujours les Allemands qui gagnent. Bon, le scénario s'est répété effectivement, hein, l'équipe de France avait pourtant un ballottage favorable avec un but d'avance, avec une expulsion d'une joueuse allemande, et à 10 contre 11 enfin 11 contre 10 pour le coup, elles n'ont pas su tirer leur épingle du jeu et se sont fait reprendre au tir au but. Ricardo Baroni.
Oui, le message, c'est moi qui vous l'ai envoyé, hein, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a surpris dans cette équipe française, puisque j'ai regardé le match, j'étais convaincu en supériorité numérique qu'ils allaient remporter ce match. Et donc les Allemands ont maîtrisé quand même au niveau de la défense le match. Mais ce qui m'intéressait surtout au niveau de cette équipe, et si je regardais le match, c'est qu'il y a une nouvelle ambiance qui a été créée au sein de l'équipe de France qui me plaît énormément. Et les anciennes n'ont pas été sélectionnées. Donc je pense qu'il y a une nouvelle équipe qui est en train de se construire, une nouvelle équipe qui se construit pour gagner quelque chose d'important. Et donc là, c'était les championnats d'Europe. Qui sait qu'au championnat du monde, ils ne soient pas encore plus performants. Et ça fait plaisir de voir toutes ces jeunes joueuses jouer avec un esprit d'équipe. Et je sais que ça va vous faire plaisir, mais cet esprit d'équipe fait penser un peu au PSG, où tout le monde joue pour tout le monde et qu'il n'y a pas certaines personnes qui se croient au-dessus, certaines joueuses qui se croient au-dessus des autres. Donc j'ai regretté cette élimination, surtout que c'est un peu dommage, surtout vu l'état d'esprit et la qualification qu'a eu l'équipe de France pour en arriver jusque-là.
Bon, c'est un groupe en construction, là aussi. Hein, le travail de Laurent Bonadei ne fait que commencer, mais effectivement... Il y avait une belle occasion à saisir malgré tout. Elles ne l'ont pas saisie. On espère que ça ira mieux dans les prochains événements.
Il y aura une revanche dans quelques mois pour la demi-finale du championnat d'Europe, non ? France-Allemagne, il me semble.
Féminin. Non, je crois pas.
Bon. J'ai eu une mauvaise info alors. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure.
Non, puisque là, les demi-finales sont là, dans 3 jours, je crois. Donc 3 ou 4 jours. Ricardo.
Oui, je suis très surpris par l'équipe féminine italienne. Puisque on ne sait pas encore si l'équipe masculine va se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est surprenant de voir en demi-finale l'équipe d'Italie. Ça me fait plaisir. Si elles vont plus loin, tant mieux. Mais déjà, d'arriver en demi-finale, c'est très surprenant et ça fait plaisir.
C'est en tout cas très agréable à regarder avec du beau football et peut-être moins de chichi que chez les hommes quand ça tombe.
Oui, c'est certain. Là, pour le coup, on est malheureusement trop habitué avec les garçons. Voilà. Il y a un vent de fraîcheur avec les filles, voilà. C'est bien. Les garçons ont attendu 84 pour gagner leur premier titre au championnat d'Europe en France. Les filles attendent encore un petit peu. On espère qu'elles n'attendront pas aussi longtemps.
Elles bénéficient d'infrastructures qui n'existaient pas avant. Donc on espère que ça va les aider à grandir. Vrai. Mais si on arrive à la fin de cette émission, ça va être le moment de vos coups de cœur. Ricardo, on va commencer par vous.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour la communauté belge. Pour mon collègue Grégory Ollot, qui est le consul honoraire de Belgique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale belge et qu'hier, un Belge avec le maillot de champion de Belgique a gagné l'étape du Tour de France. Donc ça fait plaisir et c'est un petit clin d'œil pour tous les Belges qui sont en Nouvelle-Calédonie, en sachant que c'est l'étape de repos, donc il n'y avait pas trop le choix que de gagner hier.
Bruno Salvé, votre coup de cœur de cette semaine ?
Coup de cœur, oui, à la jeune équipe d'athlétisme de Nouvelle-Calédonie qui a fait de très bons résultats lors des championnats de France jeunes à Saint-Étienne, avec notamment 2 titres, il me semble, de champion de France. Donc félicitations à ce groupe jeune et puis à tout l'encadrement et notamment un petit clin d'œil à Eric Royard qui fait un travail remarquable au sein du CTE d'athlétisme.
Merci. Et Eric Figuère, votre coup de cœur de cette semaine ?
Très vite, Loïse Boisson, moi. Loïs Boisson, bien sûr, parce que ce qu'elle a fait est vraiment pour moi assez fort. Je suis très content pour elle. Et puis deux jeunes joueurs, de Tina, qui sont partis il y a une semaine pour le championnat de France individuel dans la région lyonnaise, que sont Martin Rouvérol et Hugo Delamarre. Martin commence ce soir les qualifications et Hugo demain. Donc j'espère qu'en parlant un petit peu de ce soir, ben, ça leur donnera un petit supplément de force et de courage pour aller le plus loin possible. Voilà, 2 petits joueurs de Tina.
Bien, on compte sur vous pour nous transmettre leurs résultats, quels qu'ils soient. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission et on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine formidable.